Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bienvenue dans le podcast Sakina Seekers et dans la série d'épisodes consacrée aux apprenants du Coran intitulée Porter sa parole. Dans ces épisodes, nous aurons, inshallah,
l'occasion de revenir sur le parcours de différents apprenants et d'écouter leurs témoignages. Je vous laisse donc avec votre épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Bienvenue. Je te laisse te présenter en quelques mots si tu le veux avant qu'on commence à parler de ton parcours avec le Coran.
Merci, barakallahu fik. Alors, je m'appelle Jihane, je suis étudiante en troisième année en courant intensif à l'USH de Paris.
Est-ce que tu étudiais à côté ou est-ce que tu avais un cursus avant ?
J'ai fait l'USH de Paris directement après le bac, donc je me suis concentrée à 100% dans ça pendant ces trois années.
Et puis ça prend beaucoup de temps.
C'est ça. Au début, je me suis dit que j'allais faire juste un an, histoire de me poser pour savoir ce que j'allais faire à la fac, parce que j'étais un peu perdue. Mais quand j'ai commencé... m'a lancé dans le Coran, je pouvais pas trop m'arrêter, comme t'as dit, ça prend pas mal de temps, donc j'ai préféré me focus entièrement à ça que de dévier, voilà.
Comment déjà tu t'es dit que t'allais faire une année de Coran en intensif ? Est-ce que t'étais déjà dans l'apprentissage ou pas tellement ?
Bah, en gros, j'ai grandi dans un environnement religieux de par ma mère, je la voyais souvent avec son Coran, etc. Et du coup, c'était toujours un petit peu un objectif dans ma vie, mais je me suis jamais dit que j'allais le faire aussitôt. C'est juste que j'étais tellement perdue l'année du bac, surtout que c'était l'année du Covid, donc tout était un peu flou, je pense, déjà pour tout le monde, mais pour les étudiants de terminale, c'était encore pire. Et moi, j'avais trop de pression dans ma tête, et en fait, c'était à l'issue d'une discussion avec des amis, où j'ai eu le déclic de me dire, si je le fais pas maintenant, j'aurai pas l'opportunité d'accorder mon temps à ça. Entièrement, donc j'ai eu un déclic quand j'ai parlé à des amis à moi, puisque il y avait une de mes amies qui allait faire théologie musulmane à l'USH. C'est elle qui m'a parlé en fait de l'USH. Donc au début, je me suis dit, bah, je me lance pendant un an, mais je me suis jamais dit que j'allais dédier trois ans à ça. Et ce qui m'a fait continuer, c'est juste que quand tu commences à apprendre le Coran, surtout dans un environnement où t'es dans un cadre intensif, donc t'es accompagné, t'es pas tout seul, tu fais ça toute la journée, donc ça commence à être une routine. C'est dur de se détacher de cette routine-là.
Oui, surtout que c'est un cercle vertueux.
Exactement. J'ai grandi un peu dans ce cercle-là, donc c'était un peu ma zone de confort, parce que j'ai été dans un lycée musulman, j'ai fait la moitié de mon collège dans un collège musulman aussi. Donc j'étais un peu dans ma petite zone de confort, je me suis dit, bon, je suis bien où je suis, j'ai pas trop envie de me confronter à la fac, etc. Donc ça m'a rangé dans plein de sens de mettre dans ma vie. Hein.
Dans un des épisodes, on a pu du coup discuter avec Inès, qui est elle à l'USH de Château-Chinon. Mm-hmm. Je sais pas si c'est le même système, parce que du coup je connais un peu plus le système, il y a un internat, etc. Par contre, à l'USH de Paris, je sais pas comment ça se passe au niveau de ça.
Je pense que, bon, j'ai pas fait l'USH de Château-Chinon, j'ai entendu quelques personnes qui l'ont fait, donc ça m'a aidé un peu à avoir une comparaison. Mais je pense que l'USH de Paris, c'est un peu plus académique. Dans le sens où les choses qui reviennent le plus par rapport à l'USH de Château-Chinon, c'est que c'est un peu reculé, l'environnement il est plus propice à la méditation. Alors qu'à l'USH de Paris, bah, la majorité des gens qui viennent à l'USH de Paris, c'est ceux qui travaillent à côté, ils ont une famille à côté, donc ils ont un peu ce détachement du rythme du Coran. Donc déjà, je pense que ça joue. Mais ouais, c'est un peu plus académique, je pense. À l'USH de Paris, on est dans des classes. Voilà, je pense que c'est un peu plus académique que l'USH de Château-Chinon. En plus, l'USH de Château-Chinon, c'est un peu dans la campagne. Je pense que l'environnement joue beaucoup. Alors qu'ici, on est en pleine banlieue, pas loin de Paris. C'est un peu un rythme de travail, quoi.
Ça reste le rythme parisien.
C'est ça, exactement.
Concernant l'avant USH, est-ce que tu avais déjà un rythme d'apprentissage ? Comment ça s'est passé, en gros, la transition entre le fait de s'y consacrer vraiment et donc d'avoir un rythme forcément et une discipline qui va changer?
En fait, comme je disais, j'ai grandi dans un contexte assez religieux, c'est-à-dire que bah, je pense que la majorité des gens, comme la majorité des gens, je suis partie à l'école arabe dimanche, etc. Donc ça, c'était, on va dire, mon enfance. Et puis je voyais toujours ma mère qui apprenait le Coran à la maison, donc j'avais cette notion d'apprentissage. En tout cas, c'était quotidien. Enfin, j'écoutais quotidiennement parce que je vivais dans un environnement comme ça. Et après, quand je suis rentrée dans mon collège et lycée musulman, c'est là où j'ai eu un cadre, parce que on a dédié ça comme une matière. Donc c'était limite des devoirs, des évals, etc. Donc début, les deux dernières années de collège, quand je suis rentrée dans cet établissement, on avait un rythme d'une demi-page par semaine d'apprentissage. Donc déjà, ça m'a initié à l'apprentissage quotidien ou hebdomadaire. Et ensuite, au lycée, j'avais un rythme d'une page par semaine, sauf que j'étais pas du tout régulière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on trouvait des excuses de « non, j'ai un contrôle, j'ai des révisions », on passait ça un peu en dernier. on n'avait pas trop la notion du Coran, ce que c'était. Parfois même, je me souviens, on négociait pour que la matière saute. Donc on ne prenait pas du tout ça comme on devait le prendre. Après, il y a l'âge et le contexte qui jouent. Mais non, j'avais pas un rythme régulier. J'avais peut-être un rythme, mais je ne sais même pas si on peut appeler ça comme un rythme, parce que vraiment, j'apprenais peut-être une page par mois. En fait, j'apprenais quand je voulais. Et comme la prof n'était pas assez sévère là-dessus, ou alors moi, je me disais, de toute façon, ça ne va pas compter dans le bulletin, ça ne va pas compter dans mon bac ou quoi, je prenais ça trop à la légère. Donc, je ne sais pas si je pourrais parler d'un rythme, mais j'avais, on va dire, une infime relation avec le Coran quand même.
C'est un peu la relation que le musulman de base, il a quand il commence. Oui. C'est-à-dire, il va apprendre certaines sourates pour prier peut-être, et après, il va apprendre un peu au gré de ses envies, entre guillemets. Il n'y a peut-être pas cette notion d'importance d'apprendre la parole d'Allah et surtout du coup d'en faire vraiment son quotidien avec l'apprentissage et la méditation, la compréhension, etc.
C'est vrai, je suis assez d'accord. Je pense que tout le monde passe un peu par ce cap-là, surtout quand t'es jeune. T'es un peu obligé parce que, comme t'as dit, voilà, t'as les prières, etc. Et parfois, le contexte familial fait que tes parents te poussent à l'apprendre. Mais au début, c'est un peu une corvée pour toi. Mais je pense que quand tu passes par là, qu'après, tu dis « Ah ouais, en vrai, alhamdoulilah, mes parents, ils m'ont forcé, ils m'ont appris. Là, je suis bien reconnaissante et... » C'est souvent après qu'on se rend compte de la majorité des bienfaits qu'on a dans notre vie. Donc c'est pareil pour le Coran en vrai.
Les parents en général, quand ils voient que ça porte ses fruits, ben, ils savent que c'est un cadeau d'Allah aussi pour eux. Et même eux, ils sont reconnaissants vers ça parce qu'ils se disent « Alhamdoulilah, j'ai essayé de la pousser vers ça, j'ai essayé de le pousser vers ça et il a été vers ce chemin. »
Exactement, exactement. Et eux, je pense qu'ils ont un certain recul au moment T. C'est-à-dire qu'ils se disent quand même, ils voient peut-être des différences au quotidien que nous, on remarque pas à travers le Coran. Mais bon, après, ça, c'est encore, je pense, un autre sujet de parents-enfants, mais c'est vrai que c'est important d'initier les enfants au plus jeune âge. Après, il faut avoir une méthode, mais ça portera toujours ses fruits, de toute façon, c'est le miracle du Coran, hein, alhamdoulilah.
C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, hein, parce que même pour la transmission de l'éducation religieuse globalement, pour les parents, c'est pas quelque chose facile.
Bah déjà pour les profs, enseigner à des enfants, leur faire comprendre, déjà je pense que c'est dur. Alors les parents au quotidien, c'est mashallah.
Quand tu as eu un rythme plus soutenu, enfin, du coup un vrai rythme aussi dans l'apprentissage, quels effets tu as remarqué sur toi ?
En fait, au début, bah, on va dire que ça a commencé à ma première année de l'USH, puisque déjà dès qu'on est arrivé, le cheikh nous a directement mis carte sur table, il nous a dit ici c'est une page par jour, si vous n'êtes pas prêt pour une page par jour, enfin, c'est pas votre place ici. Donc déjà, on te met dans un contexte psychologique où en mode, ce que tu fais, c'est toi t'as pris la décision de le faire, donc t'as une responsabilité envers toi-même, envers le shirk, parce que le shirk, il est là pour toi tous les jours, donc il y a un certain respect à avoir, et t'as bien sûr l'engagement envers Allah. Donc déjà, ça m'a appris la discipline envers moi-même, même si ça reste toujours dur jusqu'à maintenant. Ça reste, voilà. On en parlera de toute façon après, mais ça, je pense que ça a mis une discipline envers toi-même et même ta relation avec Allah, elle change parce que tu te rends compte que c'est ses paroles à lui, donc bien sûr tu te rapproches de lui indirectement, mais directement aussi dans ton quotidien. Ça m'a appris aussi la patience, faire des concessions surtout, parce que tu dois prioriser, tu dois faire ton emploi du temps en fait, en fonction du Coran et pas en fonction d'autres activités. Ça m'a appris ça du coup, prioriser ma vie, donc je me suis beaucoup plus organisée. Et ça m'a appris à me connaître en fait, parce que dans certaines situations, le Coran il m'a appris à me connaître moi, parce que je pensais pas que je pouvais réagir comme ça pour certains versets. Je pensais pas que la sagesse à travers le Coran allait me toucher, donc il y a certains versets qui m'ont appris plein de choses sur moi-même, mes réactions. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, parce qu'en vrai c'est un peu fou, je suis toujours en train d'apprendre en vrai. Donc, si c'est pas fini.
Non, je pense que je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas si t'as un exemple marquant d'un moment où tu t'es dit, où t'as pensé à ce verset justement et ta manière de l'appréhender.
Je dirais que c'est global parce qu'en fait, moi, je suis une personne un peu terre à terre. Ça veut dire que je suis un peu dans ma bulle. Quand j'apprends le Coran, je veux apprendre le Coran toute seule. Je veux pas trop me mélanger, etc. Parce que j'ai toujours peur d'avoir cette concurrence-là et de le prendre mal, le fait que les gens me dépassent, etc. Et donc le Coran, il a appris à me mélanger, mais à prendre le bienfait des gens. Et pas toujours voir le côté de « il y a la concurrence, toi t'es encore derrière », alors que le Coran, c'est pas ça en fait, c'est chacun son rythme. Donc ça m'a appris un peu à prendre du recul sur mes émotions. Apprendre le Coran, c'est une aventure émotive extrême, parce que le shaitan ne te laisse pas apprendre le Coran, donc tu passes par des phases ultra sombres, on va dire, sans aggraver la chose, mais voilà. c'est pas toujours tout beau, tout rose, on va dire. Mais ouais, ça m'a appris à contrôler mes émotions et à prendre du recul sur ma vie et à centrer Allah dans ma vie. Parce que le tawakkul, il est trop important dans l'apprentissage du Qur'an, parce que sans Allah, tu peux pas apprendre le Qur'an, en fait. Et sans Allah, tu peux rien faire dans ta vie, bien sûr. Mais le Qur'an, c'est assez spécial. Parce que c'est vraiment Allah qui facilite et c'est Allah qui choisit. Donc ça m'a appris beaucoup de patience et de tawakkul envers Allah, majoritairement.
Pour revenir sur les moments qui sont les plus difficiles, parce que forcément on en rencontre, on a beau avoir un cadre ou non, et comme tu l'as dit, je pense qu'il est aussi question de concession, on va être éprouvé par ça. Est-ce qu'on va donner le temps au Qur'an? Est-ce qu'on va préférer sortir ou apprendre? Est-ce qu'on va se reposer sur nos acquis? Est-ce qu'on va gérer nos révisions? C'est comme si on avait plusieurs choses à gérer, et c'est quotidien parce que c'est tous les jours soit de l'apprentissage ou de la révision ou les deux. Et forcément, si on ne fait pas un jour, plus un jour, plus un jour, c'est un engrenage qui peut être très long. Donc, comment faire face à ça, face à ces moments-là?
Je pense que le cadre, il joue beaucoup. Parce que déjà, apprendre le Qur'an seul, c'est presque impossible. Parce que déjà, apprendre le Qur'an, de base, c'est un combat entre toi et ton nefs et le shaitan. Donc l'apprendre tout seul, je pense que c'est quasi impossible. Donc c'est pour ça qu'avoir un cadre, c'est super important. Moi au début, moi la première, j'étais en mode, je vais faire une année sabbatique, je vais apprendre le Qur'an à la maison, puisque ma mère avait un certain bagage en Qur'an, donc je me suis dit, elle va me... on va dire, je vais réciter avec elle, mais c'est la première qui m'a dit non. Et puis elle avait fait l'USH, donc elle m'avait aussi introduit ça, donc alhamdoulilah. Mais oui, le cadre est très important. Pourquoi? Parce que dans les moments de relâchement, quand t'as un shir, t'as une classe, t'as des gens avec toi, et surtout que t'as des gens de confiance et une sahiba dans le Qur'an, ça c'est très important, on peut te relever en fait facilement. En fait, les moments de relâchement, je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que c'est comme si après tu te remets à zéro. Je pense que tout le monde a besoin de moments de relâchement, c'est juste qu'il faut savoir bien le prendre, il faut pas trop se forcer. Donc moi, les moments de relâchement, au début, c'était super dur, parce que quand je suis arrivée à l'USH la première année, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, non, c'est trop académique, c'est pas pour moi, prendre une page par jour, c'est trop, tout le monde est face à son Qur'an, il n'y a pas d'interaction. Et puis après, le Covid, il est venu, et puis après, on était en confinement la moitié de l'année, donc c'était pour moi une année super dure, parce que déjà, avoir des cours au lycée, en mode confinement, c'est ultra dur. Alors le Qur'an que tu peux lâcher super facilement, parce que en vrai de vrai, aux yeux de la société, apprendre le Qur'an, c'est pas ce qui va te faire élever dans la société, mais ce qui va te faire élever envers Allah. Donc ça, c'est encore plus dur, parce qu'encore une fois, on revient au neuf, c'est à pourquoi tu le fais. De toute façon, c'est ça, être musulman, c'est toujours se remettre en question et avoir l'iman et le tawhid. Et ça, c'est à travers le Qur'an que tu l'apprends principalement. Mais oui, moi j'étais en confinement la moitié de ma première année de Qur'an, j'ai complètement lâché. Je me suis dit, c'est impossible. Donc c'est pour ça que d'ailleurs maintenant j'essaie de rattraper mon retard sur ça, mais ça c'est une autre histoire. Mais mes moments de relâchement, ils ont été multiples. Franchement, la première année, 80% de mon temps, c'était des moments de relâchement. Après, le contexte, il a fait que le Covid, etc. Et après, ma deuxième année, alhamdoulilah, je me suis dit, là c'est une nouvelle année, on va repartir sur de bonnes bases. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé, t'as toujours des moments de relâchement, de toute façon le shaitan il va toujours faire en sorte de venir vers toi pour X raisons, pour des petits trucs, il va te faire dire vas-y je vais pas apprendre le Qur'an, une personne qui va t'envoyer un message, après ça va durer pendant des heures alors que toi ton Qur'an il est ouvert, il est devant toi, ça c'est le plus dur à accepter, c'est que ton Qur'an il est devant toi et tu fais autre chose, mais t'arrives pas à lâcher l'autre chose, donc subhanallah, c'est un combat quotidien, franchement c'est épuisant, c'est pour ça que je disais que c'était pas tout beau tout rose.
C'est vraiment là qu'on voit que Allah, il te met à l'épreuve aussi dans ta résolution. Est-ce que tu es résolu à l'apprendre? Exactement. Ou pas face à des choses que tu aimes? Enfin, ça m'a fait penser à des choses, par exemple, je sais que j'avais ce sentiment que quand je devais faire le cours de Qur'an, j'avais l'impression que c'était les cours où j'avais le plus de wasawis, en mode non mais n'y va pas, non mais tu te reposes, il est tôt, parce que c'est à 9h. Le 9h du matin, c'est pas extrêmement tôt hein, en soi. Mais c'est genre, non, mais tu t'es fatigué. Non, mais mets pas la caméra. Non, mais c'est les pires engrenages.
On est totalement d'accord. Alors que si on dit 9h, tu dois être au boulot dans le bureau, bah, t'es la première à te réveiller parce que t'as un engagement. En fait, t'as un engagement physique. Alors qu'avec Allah, c'est un engagement entre ton cœur et lui. Donc si tu lâches cet engagement envers Allah, personne va le cramer en vrai. Donc, personne pourra te juger là-dessus. Mais nous, on comprend pas que cet engagement-là envers Allah, il est trop important et que si tu romps cet engagement-là, c'est encore pire. C'est pour ça que je dis que les moments de relâchement, ils sont super importants en vrai, parce que si tu les prends bien, tu te poses, tu prends du recul et tu reviens sur ta niya. Tu dis c'est quoi, c'est pourquoi, tu te poses les bonnes questions. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment se poser les bonnes questions, mais limite les écrire au début de ton cursus d'apprentissage ou de n'importe quel... Enfin, c'est pas forcément que ça soit ça. Enfin, ça doit pas forcément être un cursus, mais ton voyage avec le Coran, dès le début, tu dois te poser des bases. Allah est déjà, juste si t'as choisi, alors que tu pensais à apprendre le Coran, tu vois, t'as pas fait les démarches, t'as juste pensé, tu t'es dit, vas-y, je vais apprendre le Coran un jour dans ma vie. Déjà, ça, je pense que c'est un cadeau d'Allah, parce que c'est la première étape vers l'apprentissage du Coran. Donc, je pense que quand cette niya et cette pensée vient, faut direct mettre les choses à plat. Tu te dis, ok. Moi j'ai cette pensée là, Inch'Allah, bi'idhnillah, je vais la concrétiser parce que c'est possible pour tout le monde. Je te dis, je vais apprendre le Coran, pourquoi, comment, quand, et ça, ces questions-là, faut toujours se les poser quand t'as des épreuves envers le Coran, parce que c'est ce qui va te permettre de te relever. Et quand tu vas te relever, tu vas prendre plus en considération ces questions-là, et tu vas encore plus apprécier apprendre le Coran, tu vas l'apprendre mieux, et bi'idhnillah, tu vas le méditer, tu vas l'appliquer, parce que t'as repris en considération ces questions qui sont importantes et essentielles dans ton voyage envers le Coran. Donc, jusqu'à maintenant, moi, je suis éprouvée. Je pense que toutes les personnes qui... Déjà, tous les musulmans, ils sont éprouvés par Allah. Mais quand tu sais qu'Allah, il éprouve que ceux qu'il aime, et que tu sais que les gens que Allah choisit pour apprendre le Coran, c'est des gens spéciaux, et qu'en plus de ça, ils t'éprouvent, mais tu peux être que, en vrai, de vrai, quand tu te poses, tu peux que être content. Parce que tu sais très bien que tu vas être élevé dans ta foi et dans ton rapprochement envers Allah à travers ces épreuves-là. Après, moi, je parle avec beaucoup de recul, mais c'est vrai que quand tu es dans ces épreuves-là, bien sûr, tu vois pas ce bienfait-là. Tu te poses des questions. Pourquoi j'arrive pas à apprendre? Pourquoi elle apprend? Pourquoi moi, j'arrive pas à réviser de temps alors qu'elle, elle passe devant le shir avec 10 hizb, mais moi, un hizb, j'arrive même pas à le caler. C'est pour ça que la comparaison aussi, c'est ultra important. Faut pas trop se comparer quand t'apprends le Coran. Et moi, c'est quelque chose qui m'éprouve énormément, parce que bon, tu te dis, elle le fait, moi je le fais pas. Franchement, c'est un grand sujet.
Ouais, et même pour la comparaison, parce que ce qui a été évoqué avec certaines personnes dans les épisodes, justement, on disait, c'est important de se comparer, parce que justement, de se dire toujours, bah, c'est possible, mais c'est pas dans un but de se rabaisser ou. Au contraire, en fait, c'est juste se dire, bah, moi aussi je suis capable, pourquoi je le fais pas? Remise en question, etc. Et en même temps, de se donner des objectifs aussi atteignables, parce que si on regarde quelqu'un qui apprend des sourates de 10 pages, alors que pour l'instant, des sourates de 2 pages, on galère un peu, bah, faut déjà le temps d'intégrer la bonne discipline pour les petites sourates.
Faut avoir un juste milieu, de toute façon le musulman il est comme ça. Mais c'est vrai que si je parle pour moi par exemple, je sais que j'ai pas de juste milieu dans ça en fait. Parce que surtout quand t'es dans un cursus intensif, j'aimerais revenir là-dessus, c'est que les niveaux ils sont tellement différents. T'as quelqu'un qui est dans Robu Yassine, qui a commencé dans le Baqara, et là qui est dans Robu Yassine, donc tu sais très bien qu'il a presque fini. T'as une autre personne qui galère à apprendre le Baqara, t'en as une autre, elle a la moitié, et toi tu sais pas où te mettre en fait. C'est pour ça que d'avoir une personne avec toi, qui commence avec toi, je te dis ça, c'est super important, pour te dire que t'es pas seule, et que la personne elle est dans les mêmes pages que toi, ou dans les mêmes sourates que toi, donc t'avances ensemble. Mais quand t'es tout seul, tu vois que tout le monde avance, toi t'as l'impression que t'avances pas, parce que tu te compares à des gens qui sont beaucoup plus trop loin en fait. Donc c'est pour ça que la comparaison et la concurrence, comme t'as dit, c'est super, parce que c'est ce qui va te motiver, la motivation on en a besoin dans le problème. Mais il faut vraiment doser, et pas que ça devienne quelque chose de toxique pour toi, au point de limite arrêter. Sans t'en rendre compte, tu vas arrêter d'apprendre parce que tu vas trop focus sur les gens. Alors qu'en vrai, tu dois te focuser sur toi, Allah et ton Coran. C'est un triangle, faut pas laisser les gens trop passer dans ce cercle-là, sinon après tu t'éparpilles.
Quand on voit quelqu'un qui avance beaucoup, c'est aussi un rappel de se dire cette personne, elle donne du temps au Coran, ça se trouve Allah, il lui a donné des facilités que moi j'ai pas encore. Après, qu'est-ce qu'on fait nous pour demander à Allah? Est-ce qu'on se lève au dernier tiers et on l'implore?
Exactement.
Est-ce qu'on donne du temps déjà?
C'est vrai que quand tu te compares, la première chose que tu dis, c'est pourquoi moi et pas elle? Mais tu sais pas à quel point elle a répété, ça se trouve elle a pas dormi de la nuit, ou alors elle a des enfants en bas âge à la maison, mais elle est là, elle vient tous les jours. Donc tu sais pas la vie des gens, en fait, tu la connais pas vraiment, mais faut toujours se rappeler, comme t'as dit, que ça reste un bienfait et il faut faire les efforts pour, hein, bien sûr. Faut pas juste se comparer et attendre que les bienfaits viennent à toi. Au début, t'arrives pas à apprendre une demi-page, mais après quelques années ou quelques mois, en apprendre une demi-page en une 30 minutes, après tu pourras peut-être apprendre deux pages en 30 minutes. C'est progressif. Imagine si on te donnait déjà la capacité d'apprendre deux pages en 30 minutes, ça serait trop facile. Ça serait pas les mêmes bienfaits et les mêmes hasanat qui sont écrits dans ton livre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à l'essentiel, en fait, avec le Coran. C'est ce qui m'a appris d'ailleurs. Revenir toujours à l'essentiel de la simplicité, alhamdoulilah.
Le goût de cet effort aussi.
Exactement.
C'est dur parfois, mais il y a une sagesse dans cet effort-là qu'il n'y a pas ailleurs. quand il y a des moments de relâchement aussi, je pense qu'on ressent un découragement. Et d'un côté, bah, il y a comme une espèce de pause, mais c'est même pas apaisant. Tu as un peu moins de travail, mais tu perds quelque chose spirituellement que tu peux pas ressentir ailleurs.
Exactement. Exactement. Après, je pense que ça aussi, ça joue sur les personnes qui se mettent trop à fond. Si tu es trop à fond, et qu'après, tu te rends malade et que tu as des moments de relâchement, enfin, c'est pas ces moments de relâchement qui vont être bénéfiques, je pense, à 100% pour toi. Il faut être régulier dans ton apprentissage, comme ça, quand tu as des moments de relâchement, tu peux vraiment en bénéficier à 100%. Parce que si tu es trop à fond et que tu te fatigues toute la journée, bah, quand tu auras des moments de relâchement, tu vas juste, comment dire, tu vas pas prendre assez de recul parce que tu vas d'abord devoir te reposer, tu auras peut-être d'autres priorités pour te remettre à zéro, alors que quand tu es dans des moments réguliers, quand tu vas avoir des relâchements, tu vas pas être aussi profond. Je sais pas si ça a un sens.
Oui, et tout à l'heure, tu parlais d'écrire ses intentions.
Mmh.
Certaines personnes suivent leur apprentissage aussi. Elles suivent leur apprentissage avec des carnets, etc. Mmh. Je ne sais pas si, du coup, tu l'as déjà fait et si. Est-ce que toi, tu le recommanderais ?
Bah, en fait, moi, je ne le fais pas directement. C'est parce qu'en fait, à l'USH, on a un petit carnet. Quand on passe avec le CHIR, il note la date, quand est-ce que tu as fait cette révision-là, etc. C'est un petit peu un carnet de suivi, en fait. Mais ce n'est pas moi, de moi-même, je l'ai fait. Mais je pense que ça serait super intéressant de le faire, c'est justement pour se rappeler le processus et le chemin que tu as fait pour arriver jusqu'à là. Parce qu'on souvent, on ne prend pas de recul et on ne se dit pas par où on est passé pour en arriver là. On se dit juste, je veux arriver là, tel objectif, mais toi, tu ne te rends pas compte les efforts que déjà tu as fait. Tous tes efforts que tu as fait, tu dois les prendre en considération. Tu ne dois pas trop voir trop loin. Donc je pense que c'est une bonne idée d'écrire son cheminement. Et même après, ça, quand tu as fini, je pense que ça te procure quelque chose de spécial.
Oui, je pense qu'il faut retracer un peu. Après, c'est plus même au niveau des quantités, on peut se rendre compte aussi de comment on évolue dans la mémorisation. Et ouais, ça peut être vraiment bien de se dire, bah, ah ouais, je viens de là, quoi.
Ouais, complètement.
Et d'avoir aussi peut-être un suivi et un cadre, du coup, en plus, quoi.
Ça peut aider. Ouais, ça peut aider au niveau de ton EFS, en fait. Parce que moi, par exemple, quand j'avais mes moments de relâchement, bah, c'est les premières personnes qui venaient me voir, c'est mes chouillures. Ils me disaient, alors pourquoi t'es pas venu hier ? Ça va ? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça, c'est important. Alors que quand t'es tout seul, bah, c'est encore pire parce que tu te poses des questions, tu te dis pourquoi j'arrive pas. Alors que les profs, ils vont juste être là à te conseiller en ayant de la bienveillance. Alors que quand t'es tout seul, parfois t'es trop dur avec toi-même.
Oui.
Donc tu te forces et après tu le fais mal.
Et on croit souvent qu'on est les seuls aussi à galérer.
Exactement.
Quand on galère, qu'on a un moment de relâchement, on croit que c'est nous seulement qui avons un problème.
Exactement.
Comme certaines épreuves qui touchent le croyant. On a tous des fois on a des raisons différentes, on est tous éprouvés différemment, mais en gros, on se rejoint dans certains ressentis, etc. Et dans le Coran, c'est rassurant des fois quand on voit qu'on n'est pas les seuls à galérer ou à ne pas réussir à apprendre, ou, etc., etc. Même si c'est pas les mêmes raisons qui nous touchent au final.
Bien sûr, c'est pour ça que c'est important, je pense, de se mettre dans un cadre avec plusieurs personnes, parce que de toute façon, l'humain, il n'est pas fait pour vivre tout seul et vivre ses épreuves tout seul. Sinon, encore une fois, ça te rend ouf, tu tombes en dépression et tu n'arrives pas à comprendre. En fait, je pense que le fait d'avoir des gens autour de toi, c'est là où tu prends conscience de pourquoi les choses arrivent. Parce que tu n'es pas le seul à le vivre. Donc tu dis, bah oui, je suis humain, Allah, il nous éprouve tous. Et en fin de compte, on en revient toujours meilleur dans nos épreuves. Donc c'est rassurant, en fait.
Ouais. Donc, on a évoqué le carnet et la bonne compagnie. Mais est-ce que tu aurais d'autres conseils aussi, justement, par rapport au relâchement ou à l'apprentissage ou le fait de se lancer dans l'apprentissage ?
Avoir des conseils. Déjà, dans l'apprentissage, si je peux donner... un conseil que moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est ta méthode d'apprentissage, tu dois la découvrir. Il y en a qui vont apprendre le Coran avec une méthode visuelle, auditive, ou alors qui vont écrire, etc. Donc je pense que déjà, en fait, apprendre à se connaître, c'est super important avant d'apprendre le Coran. Donc déjà dans cet aspect-là de l'apprentissage du Coran, donc comme ça tu pourras être plus efficace. Donc déjà se connaître par rapport à ça, comme ça après, quand t'apprends, c'est plus facile. Et c'est déjà plus rassurant, parce que quand t'apprends et que tu sais pas ta méthode d'apprentissage, t'as l'impression que tu fais les choses mal. Donc ça, déjà que ça peut être un peu éprouvant à ce moment-là. Donc connaître un peu sa méthode d'apprentissage pour avancer au mieux. Après, comme t'as dit, on a déjà évoqué la compagnie qui est très 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 importante. Et essayer de prendre le temps pour la méditation. Je pense que ça, déjà c'est un rappel que je me fais à moi-même. Parce que quand t'es dans un environnement où c'est ultra intensif, où ça devient limite un mécanisme, voire une routine trop... on banalise trop le fait d'apprendre le Coran quand t'es... Bon après, tout en sachant bien sûr la chance qu'on a d'apprendre le Coran, mais c'est vrai que quand t'es dans un cursus ultra intense, tu dois apprendre tant, bah tu banalises un peu le truc parce que tu prends pas assez de recul, t'as pas le temps de prendre du recul. Je sais même plus où est-ce que je voulais en venir.
Le fait de méditer.
Voilà, le fait de méditer, merci beaucoup. Ultra important. Je trouve, parce que ça te ressource De ouf, et tu comprends pourquoi tu apprends le Coran, et après ça a un impact sur ta foi. Donc la méditation, c'est ultra ultra important, même un verset par jour, ou même pas un verset par semaine ou quoi, mais avoir ce temps pour la méditation. Parce qu'il faut savoir aussi que le Coran, c'est pas une obligation de l'apprendre, mais c'est une obligation de le méditer. Ouais. Donc il faut reprendre les bases, tu vois.
Déjà, pour rebondir sur ce que tu disais sur la méthode d'apprentissage, il y avait sur le compte Instagram de Coran de mon cœur, elle a mis sur son Linktree, il me semble, un lien. Et c'est un quiz pour savoir justement quelle est ta méthode d'apprentissage, etc. Et ça donne des conseils quand tu reçois les résultats, qui fonctionnera le mieux sur toi. Et la deuxième chose par rapport au fait de méditer le Coran, Norman Ali-Khan, il avait donné un conseil un jour pendant Ramadan, pendant un des Ramadan. Il avait dit, tous les jours, prenez un verset. Et, je ne sais plus si c'était un verset ou plusieurs, honnêtement. Mais en gros, il disait de faire un carnet. Et quand on est face à un verset, de se dire... déjà de formuler une doa par rapport à ça.
Mmh.
Ensuite, de se demander comment le verset me parle dans ma vie de tous les jours et est-ce que j'ai été confrontée à ces situations, etc. Je crois qu'il avait donné d'autres astuces, mais en gros, vraiment, le but, du coup, c'est se familiariser tous les jours avec un verset. Et il disait, après l'Aïd, de relire son carnet et de voir tout ça. Mais je pense que c'est un conseil qu'on pourrait appliquer au quotidien et peut-être pas tous les jours forcément, mais au moins de se donner une discipline une fois par semaine et il n'y a pas de négociation, par exemple. Et de le faire tous les jours dans la, ou une fois par semaine, ou en gros dans la régularité, ça apporte forcément un lien, il y a forcément une relation avec le Coran qui va se créer. Parce que du coup, on va...
Exactement.
Pardon ?
Ah, j'ai dit exactement, t'as raison, je suis grave d'accord.
Parce que du coup, on va faire l'effort de rechercher, même si c'est un seul verset, même si c'est de temps en temps, de se dire, même pour commencer, on peut se dire, c'est quoi mon verset préféré ? Pourquoi ce verset-là, il me touche tant ? Et de se dire, je vais rechercher les tafassiers, etc. Qu'est-ce qui est dit sur ce verset et pourquoi moi, dans ma vie, j'y pense. Et je pense que ça peut vraiment aider parce que le but, c'est, comme tu as dit, c'est pas que d'apprendre, c'est vraiment important de se familiariser avec la parole d'Allah, avec un lien vraiment affectif, on va dire.
C'est ça, parce qu'apprendre le Coran, je pense que c'est pas ça qui va te donner ce lien ultra fort avec ton Coran et avec Allah. Parce que c'est vrai que si on part du principe de la méditation quotidienne ou régulière, si on part de ce principe-là, c'est obligé que chaque musulman apprenne le Coran dans sa vie. Parce que si tu le médites, t'apprends à connaître Allah à travers ses attributs, à travers ce qu'Allah t'a promis. En fait, t'apprends vraiment... Le Coran, c'est la base. Donc si tu le médites, tu le médites, c'est comme quand tu commences l'apprentissage, t'arrives pas à t'arrêter, en fait. Parce que tu découvres cette halawa, ce plaisir de connaître le Coran, de connaître les prophètes, ce qui s'est passé avant, et bien sûr, ça te ressource. Donc la méditation, je pense que c'est la première étape d'apprentissage du Coran, et si tu le fais bien, et que tu as une certaine régularité, automatiquement, la suite logique, c'est le début de l'apprentissage du Coran. Sans forcément te rendre compte, tu vas l'apprendre, en fait.
L'un va avec l'autre, même si c'est progressif. Et... C'est comme le principe de se dire... En fait, c'est mieux que tu apprennes un verset par jour plutôt que tu apprennes rien du tout. Parce qu'un verset par jour, il y en a qui vont trouver ça léger, alors qu'en fait, le verset par jour, si c'est sur des années, ça fera de la personne un hafid. Si c'est quelque chose de stable.
Et on oublie souvent le mérite de la méditation. C'est comme les sahaba qui apprenaient pas un verset sans le méditer et sans l'appliquer. Si tu l'as juste appris et qu'après tu l'oublies et que tu le récites dans ta prière et que. Enfin, si ça n'a pas de sens, ça sert à rien. Donc, une personne, on a souvent tendance à élever les gens qui apprennent le Coran. Oh, t'as un apprentissage du Coran, t'es dans l'aventure d'apprendre le Coran, mais si toi-même, t'es juste en train de méditer un verset par jour ou un verset par semaine et que tu l'appliques et que tu le transmets, la récompense auprès d'Allah, après Allahu A'lam, elle est déjà mieux que si quelqu'un l'apprend juste pour l'apprendre et il l'applique pas. Et déjà, mon cheikh, à chaque fois, il nous dit, apprenez le Coran comme s'il était révélé sur vous. On a toujours tendance à croire que, enfin, c'est vrai, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a été aussi révélé pour que nous, on en tire des leçons et qu'on l'applique.
L'apprentissage apportera aussi une part de méditation, enfin une autre dimension, parce que quand on répète un verset vraiment plusieurs fois, c'est, subhanallah, parfois ça ouvre des perspectives parce qu'on se dit, ah, subhanallah, on va réfléchir à pourquoi Allah il a employé plus ce mot plutôt qu'un autre. On va se pencher dessus, en fait, sans parfois même, malheureusement, on ne le cherche pas forcément toujours, je pense, dans la répétition, mais ça nous oblige de toute façon à se pencher sur la parole d'Allah d'une manière qui est différente.
L'un amène vers l'autre. C'est juste que il faut pas trop se perdre dans l'apprentissage et oublier la méditation. Mais c'est vrai que tu as raison. C'est quand tu vois les mutashabihat, les ressemblances dans les versets, tu te dis mais pourquoi là ça a été dit différemment ? C'est pour ça que d'ailleurs l'apprentissage de l'arabe c'est super important. Parce que c'est là où tu vois la subtilité de cette langue, même si ça a été dit différemment, dans les émotions, tu vois que c'est pas pareil. Donc c'est vrai que ça amène indirectement une certaine méditation, t'as raison.
Il y avait justement une anecdote au secours, je crois que je vais en parler dans tous les podcasts du livre. C'est une hafidat qui raconte son parcours et elle expliquait justement les émotions à travers le tajwid et elle prenait l'exemple du mot « LN ». Et dans le contexte, c'est Allah qui le dit une fois que Pharaon il a attesté qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah au moment où il est en train de mourir. Et Allah lui dit Al-Ana. Et il y a un grand Med, elle disait que ça lui faisait vraiment cet effet d'emphase en fait, de dire maintenant tu crois, alors, après tout ce que. Parce que c'est ça en fait, c'est maintenant tu te mets à croire alors que tu as vu les miracles. Et en plus, lui, voilà, c'est un cas particulier. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cette émotion parfois.
Là où tu dis chaque lettre, chaque verset n'est pas là au hasard. C'est comme dans la sourate Al-Kahf, quand tu vois Tastatea et Tastatea. Une fois j'ai vu une vidéo, ça m'a ouvert l'esprit. C'est juste une lettre, mais ça change complètement l'insistance sur ça, en fait. C'est ça qui est beau dans la langue arabe, c'est que la subtilité fait tout. Subhanallah.
Oui, c'est comme la présence, c'est une lettre en plus aussi, pareil. La présence ou non d'une shadda sur un mot à un moment donné. Et qui va changer parce que s'il y a cette chatte d'Allah, c'est qu'il y a une insistance quelque part. Subhanallah, il y a tellement en fait à dire parce que quand on regarde même les Mufassiroun, même eux en fait, ils vont pas forcément dire la même chose sur un même verset. Et c'est la beauté aussi de la science du tafsir.
C'est vrai. Surtout quand tu vois que les versets c'est les mêmes, mais qu'il y a juste un ouais qui est rajouté ou alors le mot. Quand tu vois la traduction, c'est exactement la même chose, mais l'ordre des mots n'est pas pareil. Et c'est encore là le miracle du Coran, c'est qu'à chaque fois que tu l'apprends, tu découvres la puissance d'Allah, en fait. Tu dis que c'est rien n'est au hasard. Subhanallah, c'est incroyable. C'est pour ça que les Mufassiroun, les gens du tafsir, ils ont accordé leur vie entière pour le Coran, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement à dire.
Nous, on ne peut pas accéder à cette science de nous-mêmes sans leur travail. Il y a des choses qu'on ne pourrait jamais percevoir, déjà parce que la science du tafsir aussi, ce qu'elle regroupe, c'est toutes les autres sciences. Enfin, il y a besoin de toutes les autres sciences. Il faut connaître les hadiths, il faut connaître l'arabe, il faut connaître la sira. Enfin, il faut avoir vraiment une science déjà très riche. Nous, on ne peut pas se dire, trouver un verset qu'en plus on va comprendre à moitié en arabe, mais surtout avec une traduction. Donc comme tu as dit, en plus, certains versets, par exemple, vont être traduits pareil, alors que finalement, le mot va changer. Ou c'est comme époux et épouse. Parfois, il va être question de azwaj, alors que parfois, c'est berl, mra'a. Et là, comme ça, en gros, on ne peut pas se douter. Pourquoi ici, c'est mra'a?
C'est pour ça que c'est souvent le contexte qui joue, en fait. Donc, subhanallah, ouais. Le miracle du Coran, c'est que ça s'épuise jamais, en fait. Tu peux toujours, toujours, toujours en tirer quelque chose. Et même si tu tires pas quelque chose de différent, tu vas tirer la même leçon, mais tu vas le prendre différent. C'est un ilm continu, en fait. C'est pour ça que quand tu finis de l'apprendre, c'est pas fini. C'est toute ta vie, en fait, que ça va te suivre.
Il n'y a pas de fin dans le chemin, au contraire.
Exactement. Imagine s'il y avait une fin. On l'aurait tous lâché.
Peut-être qu'on ne valoriserait pas assez, c'est comme les révisions avec l'oubli, quoi.
Ouais, exactement, c'est vrai, t'as raison.
Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de l'aspect révision. Dans le cursus de l'USH, les révisions, elles font partie aussi du programme.
Oui, dès la rentrée, le cheikh nous dit carte sur table. Une fois par semaine, il y a une révision. Vous choisissez votre jour, vous en parlez avec votre cheikh au moment du passage de la récitation. Et c'est un engagement que tu as avec ton cheikh et avec toi-même, même si parfois c'est pas toujours simple. Mais en gros, oui, il te dit de réviser minimum un hizb. Un hizb, c'est 10 pages par semaine. Donc toi, tu choisis ton jour et après, il t'interroge là-dessus. Après, bien sûr, quand t'as un certain bagage dans l'apprentissage, ça veut dire que t'as plusieurs hizb, tu vas pas juste venir avec un hizb. Après, si tu viens avec un hizb, bien sûr, alhamdulillah, mais c'est pas le but. De toute façon, la révision, c'est beaucoup plus important que l'apprentissage. Hein. Si tu révises pas et que t'apprends, ça sert à rien. Mais si tu révises et que t'apprends pas, ça sert. Parce que ta révision, elle va être solide. Et après, t'inquiète même pas que les sourates, quand tu vas revenir dessus, elles vont revenir. Alors que si t'apprends et que tu révises pas, t'apprends, t'avances, t'as l'impression d'être trop bien dans ta vie. Et quand tu reviens dans les sourates que t'as pas révisées, le Coran, il dit, comment ça? Tu m'as appris, mais tu me révises pas. Et du coup, t'as du mal à reprendre les versets. Et après, tu te remets en question. Donc non, le Coran, ça s'apprend, ça se révise, ça s'entretient, c'est un mode de vie en fait. Donc la révision, elle est super importante. Même si tu entraves sur ton apprentissage, il vaut mieux entraver sur ton apprentissage et réviser que continuer. Et après, c'est de l'apprentissage pour rien. Parce que tu continues, t'apprends, tu accumules, et après tu te retrouves sous l'eau, et tu regrettes. Mais c'est jamais trop tard, bien sûr. Mais c'est juste que sur le coup, ça va te faire mal.
Ouais, c'est du travail après, en plus, pour tout faire réémerger, on va dire. Même si après, ça revient parce que Allah, il peut te faciliter aussi dans ta mémoire. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a tout oublié et finalement, Allah, il facilite.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est l'effort quand même. C'est pas comme découvrir de nouveaux versets quand on est déjà censé les connaître. C'est sûr que c'est difficile.
Surtout que quand t'apprends et que t'as un rythme de révision bien, tu révises avec plaisir, tu vois. Tu te dis, ouais, là, c'est bon, c'est mon temps de révision, je me remémore les versets, c'est satisfaisant. Alors que quand tu t'as accumulé, bah, franchement, c'est lourd après. Ça devient une corvée. Le but, c'est que ça ne devienne pas une corvée, parce que sinon, après, tu redoutes à chaque fois la révision. Donc, c'est pour ça qu'il faut réviser très, très régulièrement, voire quotidiennement. Quotidiennement même, quand tu apprends le Coran dans un cursus intensif, tu le révises quotidiennement, parce que tu apprends des pages et des pages par semaine. Ceux qui apprennent 2 pages par jour, ils apprennent 1 hizb par semaine. T'imagines si le hizb, tu le révises pas, en un mois, t'en as 4 des hizb et va pour les réviser après. C'est bien dur. Donc, il faut bien prendre la révision dès le début, comme ça, après, ça devient un automatisme. Et ça devient plus satisfaisant et c'est plus un plaisir.
Quand on a tendance à le prendre comme une tâche, on oublie en fait que c'est un bien, parce que c'est la parole d'Allah, et c'est dur parce que forcément, bah, ça demande un effort, la révision. Mais c'est avant tout de se dire, bah, je vais revenir sur la parole d'Allah. Et c'est vrai que des fois, on va être peut-être un peu trop aussi dans la quantité, on va dire, ou dans le matériel. En gros, on va réviser en oubliant, bah, non, mais tu révises le Qur'an. Donc, ce que tu révises, c'est un réel, en fait.
Grave, je suis grave d'accord. Surtout que ce qui fait le plus mal, je pense, pour quelqu'un qui apprend le Qur'an, c'est que quand tu vas parler avec quelqu'un, que la personne va sortir un verset, que tu l'as appris le verset, parfois, tu le reconnais même pas.
Tu sais plus où il est.
Ah, de ouf, tu dis, bah, la personne, tu vois, elle connaît pas forcément le Qur'an, mais juste, elle a entendu le verset, elle se dit, ouais, ce verset-là et tout, je l'ai entendu, j'aime bien. Mais je sais pas, c'est quelle sourate. Et toi, t'es là, tu connais le verset, mais tu sais même pas il est où. Ça, c'est un rappel. Hein. Franchement, ça, c'est un rappel, ça fait mal.
Mais il y a un site internet comme ça où on peut sélectionner les sourates qu'on connaît et il sort un verset et on doit trouver la suite.
Ça, c'est grave.
Et je trouve aussi que c'est super intéressant à faire avec ses amis, par exemple. Genre, on dit, bah voilà, on fait de telle à telle sourate. On se dit un verset chacune et l'autre, elle doit deviner. Et c'est sûr que c'est là qu'on se dit, bah, est-ce que je sais ce que j'apprends ou est-ce que c'est un automatisme? Est-ce que je vais reconnaître quand c'est pas la voix de tel chir avec qui j'apprends?
Ouais, et là, c'est pas pareil. C'est grave, ça. Je l'ai fait en plus avec une personne de mon entourage. C'est vrai, en fait, ça peut être à double tranchant. Ça peut être super rassurant parce que tu dis, alhamdoulilah, ça va. J'ai pas appris pour rien, je sais où c'est. Mon hifd, il est bien. Mais ça peut être aussi ultra dévalorisant, limite. Mais il faut le prendre pour un boost de rappel. Mais c'est ultra intéressant de le faire assez régulièrement pour voir un peu t'en es où.
Ouais, je pense aussi. Et ça peut rendre les révisions un peu plus... comment dire? Ça peut faciliter un peu les révisions, parce que parfois, on a peur... on peut se retrouver dans cet engrenage-là où on a vraiment peur de réviser. On se dit, ah non, je connais plus rien, c'est bon. Et en fait, ça rend les révisions un peu plus ludiques, on va dire. C'est
enfantin, mais... C'est grave, vrai. Ça t'enlève cette peur-là de te dire, j'ai tout oublié, alors que non. Tu l'as appris avec le cœur avant de l'apprendre avec le cerveau, ton Qur'an. Donc, t'inquiète même pas qu'il est toujours là. Alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Et pour finir avec les questions, est-ce qu'il y a un verset qui t'a marqué particulièrement, ou une sourate dans son apprentissage ou autre dans ton parcours?
Je dirais qu'il y a un verset en particulier, une sourate en particulier qui m'ont fortement marqué. Je commencerai par la sourate parce que c'est plus facile. C'est la sourate Al-Mu'minun, c'est la sourate 23, sourate des croyants. Au début, j'étais pas du tout encore arrivée à cette sourate-là. Mais je suis tombée dessus comme par hasard sur YouTube avec un cheikh qui récitait, et j'ai beaucoup aimé. Du coup, je l'écoutais tous les jours. En fait, j'étais limite obsédée par cette sourate parce que subhanallah, elle m'a fait ressentir quelque chose de super spécial. Je savais même pas, je l'avais même pas lu ou quoi. Je savais même pas que cette sourate existait. Du coup, je l'écoutais tous les jours, peut-être pendant un mois. Et quand je suis arrivée dans la sourate, et quand tu commences à l'apprendre et que tu vois ton mushaf, déjà que ton mushaf il est super important pour toi et que tu vois que cette sourate elle est dans ton mushaf, je me suis dit waouh, genre j'étais super honorée, je sais pas, j'étais limite émue. Et en fait, j'aime beaucoup cette sourate parce qu'elle elle reprend plein de thèmes différents qui résument plus ou moins bien le Coran, je trouve. Dans le sens, au début, dès le début, Allah il te donne les attributs des croyants. Donc d'un côté, ça te rassure et ça te booste de te dire « Ouais, voilà, je veux être comme ça. » Il énonce, en fait, pendant les 10 premiers versets, les attributs des croyants. Ils doivent être assidus dans la prière, la zakat, etc. Et en plus, il y a un hadith qui parle de ça. D'après Omar ibn al-Khattab, le prophète, il avait dit, quand il avait reçu ces versets, que ceux qui sont capables de les honorer iront assurément au paradis. Donc, subhanallah, ça te fait quelque chose quand même. Tu te dis, ces 10 versets-là, ils ont tellement de sens, et ils doivent être appliqués en fait tous les jours. Donc c'est déjà, la méditation de cette sourate, elle est super importante. En plus, elle reprend l'histoire d'un prophète. Ensuite, Allah, il parle du châtiment, de ceux qui n'ont pas... de ceux qui n'ont pas cru et qui l'ont associé. Et ensuite, il te parle des récompenses qu'il nous a promis à nous, les croyants qu'il a cités au début, ceux qui respectent ce qu'il a dit dans les 10 premiers versets. Je trouve qu'en fait, elle englobe bien à peu près tout. C'est un beau résumé, on va dire, si je peux me permettre. Et elle est rassurante.
Dans un autre épisode, c'est la fin. On a parlé de la fin de Sourate al-Mu'minun, justement. Ah, subhanallah. Et en plus, on disait, subhanallah, c'est vrai que... C'est incroyable parce qu'au début, Allah parle des attributs des croyants et à la fin, on parle de ceux qui se moquent des croyants qui ont ces attributs-là et qui ont la félicité. Enfin, le premier verset, c'est traduit « Bienheureux seront les croyants », je crois, ou « Bienheureux seront les croyants ».
Exactement.
« Qad aflaha al-mu'minun », c'est en arabe, c'est incroyable. J'avais écouté Noman Ali Khan parler du début de cette sourate parce que, justement, en fait, je me dis « Subhanallah, c'est un passage du Coran où tu as une liste limite des choses que tu dois faire et respecter si tu veux le paradis. Et c'est pas dur en fait, c'est pas compliqué, c'est à la portée de tous, mais ça remet en question. Il expliquait même la notion linguistique de aflaha. Ça vient de fallaha, de l'action que fait l'agriculteur à un moment donné, je sais plus exactement le terme, je voudrais pas mélanger avec labourer ou quoi. Mais en gros, il y a cette notion de tu vas récolter à un moment donné ce que tu as semé entre guillemets. Tu es dans cette notion de... Ici-bas, en fait, on fait des choses dont on ne voit peut-être pas les fruits. Le croyant, il sait avec certitude qu'il récoltera justement les fruits de ses efforts au paradis si Allah a agréé ses œuvres.
Et il revient dessus à la fin, comme tu as dit. En plus, il commence pas à... Allah subhanahu wa ta'ala commence pas à dire « Voici les croyants ». Vraiment, la manière dont la sourate elle commence, c'est comme tu as dit, c'est « Mais en fait, tu m'as appris quelque chose, là, moi, je savais pas. » Mais c'est incroyable. Je suis encore plus amoureuse de cette sourate. Subhanallah.
Mais j'aimerais bien chercher, parce que j'avais noté juste le début, j'avais même pas fait tous les versets. Mais moi, après, ce qui m'avait beaucoup marqué dans ce passage, parce que du coup, je l'avais vraiment trouvé incroyable. En fait, juste sur le début, donc les 3 premiers versets, du coup, donc « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités. » Il disait que c'est des personnes qui ont vraiment développé leur relation et un dialogue avec Allah. Et il réalise la valeur du langage, ce qui, en gros, vraiment ce que c'est d'utiliser sa langue. Si tu te détournes du larme, de ce qui est futile, ça veut dire que tu as compris cette notion-là. Et s'écarter du larme, ça me faisait penser, le prophète, il dit que fait partie du bon islam de s'écarter de ce qui ne regarde pas. C'est lié, en fait. Si tu ne verses pas dans les futilités, ça veut dire que tu t'intéresses plus à ce qui n'est pas, en fait, profitable dans ta vie, dans ta religion. Et il disait qu'en gros, c'était s'éloigner de certaines conversations inutiles et que c'était la conséquence naturelle du rouchoua de la salat. Parce que si tu te trouves en train de parler beaucoup inutilement, si tu es beaucoup dans ces situations-là, c'est que tu vas probablement trouver et remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de rouchoua dans ta salat. Parce que l'un est le résultat de l'autre. Et il disait que l'autre était la preuve du premier.
Ah, mais comme quoi tu dis, hein, encore une fois, la profondeur de la langue arabe. Ça m'étonnera toujours.
Mais c'est ça. Et du coup, bah, pour Aflaha, c'était expliqué concernant le fermier au moment où, en gros, il va récolter son salaire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je crois qu'en gros, c'était vraiment la notion de récolter, que tu vas faire, etc. Et bref, c'est intéressant en plus que ça renvoie à une notion d'agriculture parce que quand on parle de kafiroun, etc., c'est une notion aussi d'agriculture.
Oui, exactement.
Donc c'est trop intéressant qu'il y ait aussi cette notion en lien avec la terre, en fait. Enfin, moi, franchement, ça me fascine.
Quand tu vois l'agriculteur, en vrai, son travail, avant tout, c'est la patience. c'est une vertu que le musulman doit avoir de base. Il fait des efforts, il patiente. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours cette notion de récompense. Après, soit on l'a dans ce bas monde, soit on l'aura dans l'akhirah. En plus, après, quand il dit, quand, dans le deuxième verset, il dit Alladhina hum fi salatihim khashi'un, tu vois qu'il y a un autre verset qui dit Alladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Donc tu peux pas. C'est l'un vient avec l'autre, en fait.
Comme en plus dans Sourate Al-Ma'arij, où deux fois la prière elle est mentionnée. C'est incroyable.
Ouais, exactement.
Mais en tout cas, ce passage-là, de quand il explique le tafsir du début, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé que le début, mais moi le début il m'a tué. Faut trop que je regarde la suite d'ailleurs un jour, mais en tout cas j'ai trouvé ça mais tellement ouf.
Ouais, les versets sont super forts dans le mu'min. Ils sont vraiment bah déjà juste quand après il parle de ceux qu'ils ont pas cru, comment il les présente quand ils vont dire qu'ils vont revenir dans ce bas monde. Quand t'écoutes le shir le réciter, je pense que n'importe quel shir qui va le réciter, il va le réciter d'une manière ultra forte. Il dit enfin là il dit la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Le mot la'alli, c'est j'aurais dû, limite je m'en mords les doigts, je ferais tout pour revenir, en fait. Irji'ouni, vraiment c'est super fort. D'énormément de bienfaits et de leçons. C'est pour ça que je disais qu'elle résume bien plein de choses, parce qu'elle parle des prophètes, parce qu'on a toujours tendance à dire que dans chaque sourate, il y a des histoires de prophètes, mais là, il y a le prophète, il y a le châtiment, il y a les attributs des croyants, on parle de la salette, après Allah, il nous rappelle ce qu'il nous avait promis, ce qu'il nous avait promis si on est parmi les croyants, donc les attributs qu'il a mentionnés au début. Non, le tartif de cette sourate, le comment on dit, l'ordre dans lequel a été mis les versets dans cette sourate, il est incroyable. Parce qu'on revient toujours sur ce que Allah a dit, en fait. C'est pas juste, il dit ça, ça, ça. C'est, il dit ça, mais il a dit ça parce que ça.
Je pense qu'il faudrait se repencher sur la sourate juste après, après l'épisode. Vraiment. Surtout que moi, c'est plus le début, du coup, avec lequel j'étais familiarisée, mais pas forcément le reste. Donc, barakallahu fik.
Avec plaisir.
Et Kavan nous compte parmi, du coup, ceux qui sont cités dans le début.
Amin.
Et merci beaucoup à toi.
Merci, avec plaisir. Merci à toi. Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série intitulée Porter sa parole. C'était le podcast Sakina Seekers pour ceux qui aspirent à la tranquillité du cœur. N'hésitez pas à donner votre feedback sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt, Inch'Allah.